Bonjour, Grand Portage, avec Kevin Boulay.
À 8h29, j'ai écouté religieusement la semaine dernière le reportage présenté sur les ondes de Radio-Canada de l'émission Enquête. C'est en lien avec l'événement qui s'est produit à Saint-Roch-de-Lachigan, explosion qui a fait malheureusement des victimes. On faisait également état du 10e anniversaire malheureusement de ce qui s'est passé du côté de Lac Mégantic, déraillement de train, explosion qui a soufflé une bonne partie de la ville là-bas. Et dans le reportage, il y a quand même des données inquiétantes sur les matières dangereuses qui transitent dans une ville et très souvent transitent sans qu'on sache trop ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit dans les wagons, que ce soit même par camion. Et c'est ça, dans le reportage, on l'expliquait plutôt bien. Et ce matin, ben, c'est intéressant d'en jaser avec Éric Bérubé. Il est le directeur du service de sécurité incendie de la ville de Rivière-du-Loup. Puis en même temps, on va même prendre des nouvelles de la caserne qui est en construction et qui devrait ouvrir ses portes probablement quelque part en 2023. Monsieur Bérubé, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bien, merci, ça me fait plaisir. Bon matin à vous.
Écoutez, plein de choses à jaser avec vous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur ce reportage-là qui a été fait par Enquête, mais c'est quand même troublant ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce reportage-là où dans plusieurs villes du Québec, je sais pas si c'est le cas à Rivière-du-Loup, mais on n'est pas nécessairement au courant des matières dangereuses qui sont entreposées dans les différentes entreprises, parce qu'il n'y a pas de loi qui l'oblige, les entreprises, à mentionner ce qu'on entrepose sur nos terrains. Même chose avec ce qui passe sur les chemins de fer, avec les wagons qu'on voit régulièrement. Est-ce qu'on à Rivière-du-Loup, on est un peu dans cette situation-là d'ignorance concernant ce qui transite par sur notre territoire?
Écoutez, je dirais que partiellement, vous avez raison. C'est sûr qu'au niveau des entreprises, ça reste qu'il y a une obligation dans la loi sur la sécurité incendie de divulguer les risques majeurs.
Ouais.
Donc, c'est sûr que nous, puis on a vraiment une belle collaboration des entreprises ou des entrepreneurs à Rivière-du-Loup. Donc, le service de prévention des incendies est en mesure annuellement de faire des visites, puis on n'a pas d'obstruction du tout. Alors, ça nous permet, nous, de recenser les matières dangereuses et de faire des plans particuliers d'intervention ou des plans de sécurité incendie avec ces entreprises-là pour nous aider à intervenir en cas de besoin. Ceci étant dit, ce qui passe sur les routes et ce qui passe sur les chemins de fer, pour nous, c'est un peu le Far West. On a une application qui s'appelle Ask Rail qui nous permet en temps réel de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des wagons. Si je suis à la caserne aujourd'hui, puis la traque passe justement en arrière de chez nous, en arrière du poste de pompiers, je suis en mesure de rentrer les numéros de wagons, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Mais en quoi ça nous est utile lorsqu'il y a un accident ferroviaire impliquant une explosion comme on a vu à Mégantic? Je pense à pas grand-chose parce que j'aurai jamais l'opportunité de m'approcher assez proche.
Ouais.
Par contre, dans un cas de déversement ou des incidents qui impliquent un déraillement, là, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a dans les wagons.
La bonne nouvelle dans votre réponse, c'est qu'au moins avec les entreprises, il y a une bonne collaboration parce qu'on donnait l'exemple à Val-d'Or où c'est pas la même chose. Le directeur du service incendie qui était là disait « on sait rien, il y a des entreprises qui sont fermées ». La bonne chose, c'est qu'à Rivière-du-Loup, comparativement à d'autres villes à travers la province, je pense pas qu'il y ait d'entreprises très dangereuses.
Non, c'est des risques que l'on peut plus facilement connaître et, entre parenthèses, contrôler. Exemple, l'ammoniac, c'est un produit pour lequel on peut se préparer adéquatement, on peut acheter des équipements, on peut connaître les quantités, les équipements. Les entreprises peuvent faire des modifications quant à la façon de l'entreposer ou de le distribuer à l'intérieur de l'établissement. Mais certains produits plus réactifs, contenus dans des industries comme il y a des fois dans le Grand Nord, ça, c'est vraiment autre chose. Puis souvent, c'est des entreprises qui ont des secrets industriels puis sont pas réceptives du tout là, parce que ça fait partie de leur commerce. Ouais. Alors qu'ici, ça fait pas partie de leur commerce. Généralement, ça fait partie de leur procédé.
Ouais.
C'est un produit réfrigérant, des choses comme ça. Donc, c'est pas lié au secret de l'entreprise.
Ouais. Revenons au chemin de fer. Vous l'avez mentionné, c'est un peu le Far West. Est-ce que dans les 10 dernières années, est-ce que l'épisode Lac Mégantic a changé quoi que ce soit? Parce que Lac-Mégantic, tu sais, cet événement-là aurait pu se produire à Rivière-du-Loup. On a un chemin de fer qui est très imposant, qui passe tout près du centre-ville, qui scie pratiquement la ville en deux, quartier Saint-Ludger d'un côté, le centre-ville de l'autre. Donc, c'est une réalité, heureusement, qui ne nous a pas touchés, mais ça aurait pu arriver à Rivière-du-Loup, comme ça aurait pu arriver dans plein d'autres villes à travers la province. Est-ce que, selon vous, dans les 10 dernières années, cet événement-là a provoqué des changements?
Oui. D'abord, pour Rivière-du-Loup, faut peut-être un peu rassurer quand même les gens. On a une chance, c'est qu'on n'est pas dans un dénivelé. Donc, ouais. Mégantic, vous vous souvenez, hein,
avec la grande courbe.
La grande courbe et la grande côte. Alors, ouais. Autre affaire ici, Rivière-du-Loup, à part le chemin Lebel et peut-être là, dans le parc industriel, on ne traverse pas la voie en auto de façon régulière. Fait que ça, avec les collisions véhicules, ça diminue d'en plus le risque. Maintenant, le risque demeure, va toujours demeurer. On est au centre-ville. Ah, excusez-moi, ce que j'allais dire comme troisième bonne nouvelle, c'est qu'il y a peu ou pas de transvasement qui se fait à Rivière-du-Loup.
Ouais.
Alors, c'est une cour plus de triage. Ils vont ajouter, retirer des trains, se replacer et repartir. Alors, c'est trois possibilités de risque qui diminuent la probabilité là, à Rivière-du-Loup. C'est la bonne nouvelle. Maintenant, c'est un chemin de fer qui traverse un centre-ville, peut arriver un déraillement, peut arriver n'importe quoi, mais on a la chance d'avoir moins de probabilités.
Ouais. On l'a mentionné, le fait que la caserne, présentement, soit située à côté de du chemin de fer, ouais. Ça n'a jamais été une situation idéale. D'ailleurs, ça a peut-être contribué au fait qu'on a décidé d'aller le plus loin possible du chemin de fer dans le quartier Saint-Ludger. Est-ce que, à travers le processus dans la nouvelle caserne, puis ce qui s'est passé à Lac-Mégantic, ça a joué, ça, dans la décision de positionner la caserne à un autre endroit?
Pas vraiment, parce que vous voyez, dans un cas où ce serait un accident de propane, évidemment, dépendant d'où ce qu'elle va arriver, mais on s'est rapproché quand même des entreprises manufacturières. Là, je pense Propane Select qui met supérieur propane, c'est-à-dire ouais. Qui est juste l'autre bord de la rue. Là. Alors non, c'était vraiment une question de disponibilité de terrain au centre-ville là, qui répondait à nos besoins. Ça n'a pas joué.
J'ai une question à vous poser. Lorsqu'il y a un événement comme on a vécu à Saint-Roch-de-la-Chigan, ouais. Ça fait même pas un mois, est-ce que ça nous pousse dans une ville à revoir un peu nos méthodes de travail? Est-ce que ça vient... est-ce qu'on est obligé, peut-être pas par la loi, mais question de conscience de dire, hey, nous autres, si un tel événement arrivait, est-ce qu'on serait prêt à y faire face?
Oui, à deux niveaux. Je vous dirais, dans un premier niveau, parce que je veux finir de peut-être répondre à la question précédente, qu'est-ce que ça a changé, Mégantic?
Ouais.
Donc, il y a eu la AskRail, l'application qui nous permet là, de connaître la situation.
Ça, c'est nouveau? Ça n'existait pas avant?
Non, c'est arrivé en 2015 environ. Et on a aussi le CN qui nous fait parvenir une fois par année la liste des matières dangereuses ayant transité sur le territoire. C'est un document qui est confidentiel, mais ça ne nous dit pas les quantités nécessairement, puis ça ne nous dit pas nécessairement qu'est-ce que c'est et comment c'est réactif. Donc,
okay.
Mais quand même, on a une idée.
C'est le minimum qu'on reçoit.
C'est le minimum et un an plus tard.
Ouais.
Mais c'est le minimum. Peut-être pour des questions de sécurité publique aussi, parce que sachant qu'il s'en vient un wagon de telle substance, ça pourrait peut-être donner des idées à certains individus.
Oui, on peut comprendre. Ouais.
Bon, peut-être. Pour ce qui est de maintenant, c'est sûr qu'avec Saint-Roch-de-la-Chigan, quand on regarde ce qui s'est passé là, une des premières actions que j'ai faites, moi, c'est de rencontrer la prévention au niveau de la MRC, parce que tout ce qui est maintenant risque plus élevé, c'est la MRC de Rivière-du-Loup. Donc, j'ai rencontré le coordonnateur, puis je lui ai demandé de faire une mise à jour des plans d'intervention qu'on a avec les deux distributeurs de propane en ville.
Mm-hmm.
Et on a regardé aussi d'un œil différent un peu la priorité des interventions qu'on va faire auprès des entreprises pour justement regarder quels sont les plus à risque, là, où est-ce qu'il y a le plus de matières dangereuses. Puis notre intention, c'est que ces entreprises-là vont être visitées un peu plus souvent. Parce que souvent, dans le schéma, ils vont dire « Ah, c'est aux 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans », mais des feux d'épicerie ou des feux de commerce de genre-là, il n'y en a pas tellement. Puis pour le gouvernement, c'est le même risque qu'un producteur de produits chimiques, si on veut. Alors que pour nous, on sent le besoin d'augmenter la fréquence des risques dans ces gens-là, minimalement pour nous tenir au courant exactement des coordonnées. On sait maintenant avec les gens changent souvent de siège. Donc, d'avoir des coordonnées à jour au niveau des quantités, de la localisation, des personnes ressources et tout ça. Donc, on va les visiter beaucoup plus régulièrement. Mais le lendemain du reportage, on était déjà en mode action là, pour s'y préparer.
Monsieur Bérubé, pendant que je vous ai, on va prendre des nouvelles concernant la caserne.
Oui.
Je disais tantôt, probablement qu'on va procéder à l'ouverture officielle quelque part en 2023. Oui. C'est quoi, où est-ce qu'on en est rendu? C'est quoi, à l'heure actuelle, là, où est-ce que l'avancement des travaux, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Ça avance bien. On n'a pas de date de livraison parce qu'il y a différentes contraintes. Encore, il n'y a pas de courant dans le bâtiment. Hein? Les transferts, le nouveau poteau n'a pas été planté. Okay. Alors ça n'aide pas vraiment la construction pour le chauffage notamment. Ouais. Donc, puis il y a des enjeux pour nous, exemple, les dalles de béton qui vont être à l'extérieur. Donc, il faut attendre le dégel, il faut être en mesure d'excaver le sol, les coulisses des dalles de béton-là et les laisser sécher pendant quelques jours. Donc,
est-ce qu'on peut
on n'a pas de date de livraison, mais d'ici le mois de juin, là, je ouais. croirais que nous, on va être déménagé là. Est-ce que ça va être terminé à 100%? Non, mais c'est des bâtiments qui ont toujours besoin d'ajustement là, ouais. pendant un certain temps. Mais je pense qu'on peut envisager sérieusement un déménagement là, au courant de mai.
Donc,
juin.
Une ouais. caserne qui sera opérationnelle pour le début de l'été. C'est donc, si on dit ça, on ne se trompe pas
on
trop.
On se trompe pas. Vous savez, moi, j'ai une cible depuis toujours, pas depuis toujours, mais depuis 2-3 ans là-dedans, c'est que vous savez, au mois de mai, on va accueillir le congrès de l'Association des chefs pompiers.
Ouais.
C'est une semaine de congrès qui va avoir lieu à Rivière-du-Loup. C'est plus de 1000 congressistes. C'est 3 millions presque de retombées économiques. Et je serais vraiment gêné de les accueillir dans nos locaux actuels. Alors, ouais. minimalement, j'aimerais que la caserne puisse accueillir l'ensemble des chefs de la province de Québec dans un bâtiment.
Parce qu'on a l'impression que le toit peut nous tomber d'une journée à l'autre avec l'actuelle caserne, là.
Ouais, ben c'est surtout la vitusité là, de l'espace de travail des gars. C'est ça qui me rend un peu mal à l'aise parce que nous, en haut, dans les bureaux, c'est tel que tel. Ouais. On a des beaux bureaux. C'est les bureaux anciennement d'ingénierie, des travaux publics. Mais là où le personnel travaille, là où on reçoit les gens en formation, en entraînement, c'est épouvantable.
Surtout que Rivière-du-Loup est un pôle d'enseignement en plus. Donc, d'accueillir les futurs pompiers là-dedans, disons que c'est pas l'idéal.
Non, on reçoit des gens du KRTB puis des fois de plus loin. Puis ça fait vraiment dur. Là, ouais. En bas, là, le ciment pourri, on a des rats. Ouais. C'est pas le fun. C'est
l'histoire des rats, il y en a encore. Ils sont encore
là, on a fait un petit bout de temps qu'on les a pas vus. On a découvert le passage.
OK, donc on a bloqué ça.
Ouais.
Monsieur Bérubé, pendant que je vous ai aussi, situation des pompiers, on sait qu'il y a une pénurie qui frappait. D'ailleurs, l'année passée, on avait fait des nouvelles là-dessus. Est-ce que tranquillement, cette pénurie-là se règle ou on a encore vraiment de la difficulté à recruter de nouveaux pompiers, autant pour Rivière-du-Loup, mais également pour les casernes desservies par la ville de Rivière-du-Loup?
Je vous dirais qu'on fait face actuellement à deux problèmes distincts relativement à la main-d'œuvre. Le premier, c'est vraiment d'attirer des gens. Donc, le recrutement est très difficile. Et le mur, selon les spécialistes, c'est 2030-2032. Fait qu'on n'est pas arrivé encore. Puis on le sent. Avant, on avait de la difficulté dans des casernes que nous, on appelle satellites, là, les casernes des municipalités que l'on dessert. Et là, on commence à le sentir à Rivière-du-Loup. L'autre problème qu'on a, c'est qu'ici à Rivière-du-Loup, c'est de la garde à temps partiel. Donc, c'est des gens comme vous qui ont un emploi régulier, qui viennent travailler, faire des heures. Et là, lorsque ton entreprise te demande déjà 40-50 heures de travail, toi, ta petite famille, des fois famille reconstituée avec la garde partagée, aller faire un 8, 14, 10, 30 heures par semaine à Rivière-du-Loup en garde, ça devient difficile. Et là, ajouter à ça les vacances estivales, ajouter à ça la chasse ou la pêche, ça fait que des périodes, on a toujours quelqu'un, mais ça vient de plus en plus difficile.
Parce que le manque à gagner, en quelque sorte, ça serait combien? Dans un monde idéal, ça prendrait combien de pompiers supplémentaires à Rivière-du-Loup?
Ben nous, ce qu'on souhaite, à Rivière-du-Loup, on est complet. On est 48.
Okay.
Il y a 40 pompiers, 8 lieutenants à Rivière-du-Loup. Ça, c'est correct, en plus de l'état-major. Mais dans les casernes des services, on pouvait avoir toujours une douzaine de pompiers présents localement dans la municipalité. Ouais. On a tous des groupes de 12, 15, 16 pompiers, mais des fois, c'est un pompier qui demeure dans le village voisin.
Ouais.
Mais il y a des endroits où il va falloir sérieusement penser à des regroupements. Là.
Ah oui?
Quand on a des casernes qui sont vétustes, les camions, c'est rendu 1,5 million, puis à 2-3 municipalités, on arrive avec une population totale d'à peu près 1900 ou 2000 de population pour 3 villages réunis. Est-ce qu'on a encore les moyens de loger 3 casernes, d'acheter 6 camions de pompiers pour du personnel qu'on n'est plus capable de recruter? Alors, je sais que la MRC va se livrer bientôt là, une étude là, qui devrait inclure ce volet-là, mais il faut vraiment entamer des réflexions sérieuses au niveau régional, autant pour Rivière-du-Loup que les municipalités qui entourent la ville.
Dernière question avant de vous laisser aller. Oui. Comment voyez-vous cette idée qui est un peu partout aussi à travers la province, mais qui a été avancée du côté de Trois-Pistoles, d'offrir une formation dès le secondaire en formule sport-études, mais pompier-études, pour éventuellement favoriser le recrutement de jeunes pompiers à partir de 16 ans, du moins les intéresser à la profession. Est-ce que c'est une idée qu'on pourrait aussi implanter éventuellement du côté de Rivière-du-Loup?
Ça me fait vraiment rire et je suis content que vous me posiez la question parce que à mon arrivée à titre de directeur en 2010-2012, on avait eu cette idée-là, pour vrai. On avait rencontré les gens du pavillon de l'avenir ici à Rivière-du-Loup pour regarder. Et c'était pas concluant ce qu'on se disait. Les jeunes ont déjà des fois de la misère à réussir leur parcours scolaire et d'ajouter une formation supplémentaire, c'était compliqué. Et à ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement une ouverture là, des écoles pour financer ça. Qui va payer pour ça? Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, lorsque moi j'engage un pompier à temps partiel, c'est les citoyens de la ville qui paient cette formation-là. Oui, il y a un programme de remboursement qui vient nous aider, mais quand la ville de Montréal engage un pompier, c'est vos impôts qui ont payé l'Institut de protection incendie parce que ça fait partie du ministère de l'Éducation. Donc, c'est des jeunes-là qui sont rattachés à aucun service incendie qui aurait payé pour eux. Alors, finalement, c'est un projet qu'on a mis sur la glace et à la Malbaie, mon confrère l'a réalisé et semble satisfait. Puis on regarde ça pour vrai attentivement. S'il y a des possibilités de financer ça, ça devient intéressant. Et pour un jeune, quelle belle expérience et quelles compétences on vient d'acquérir parce qu'un pompier, ça répond à peu près à toute intervention où les autres savent pas quoi faire avec. Donc, ça prend beaucoup de compétences et d'acquérir ça au secondaire, moi, je pense que c'est un must.
Donc, on pourrait relancer l'idée.
Tout à fait.
Bon, mais écoutez, c'est intéressant. Merci beaucoup, M. Bérubé.
Un plaisir. Bonne journée à vous.
Une bonne année aussi, parce que je pense qu'on peut encore le faire. On est encore au mois de janvier.
Merci beaucoup, vous
aussi. Merci beaucoup. Donc, Éric Bérubé, directeur du service de sécurité incendie à la ville de Rivière-du-Loup, qui était là.